Tu fais du bien.
Vous voyez, je vous ai dit déjà une DIA avec des sources. Donc vous n'êtes pas obligé de décrire. C'est pour ça aussi que je vous ai donné le polyglotte, pour que vous ne deviez pas tout le temps être en train de garder et que vous puissiez un petit peu profiter de la journée. Donc vous voyez, homéopathie pour les ruminants, le guide de la France agricole de Marie-Gaëlle, il est très très bien fait. Ça coûte 25 ou 30 euros, c'est pas surmontable. Bon, ça c'est déjà plus un ouvrage humain. Les fiches techniques de la phytothérapie et de l'aromathérapie, c'est Philippe Labre, c'est un vétérinaire qui a écrit des bouquins sur la phyto et l'aroma et qui vend d'ailleurs des produits aussi en direct. Ça s'appelle Gentiana. L'aromathérapie essentielle et synthèse, ça c'est mon mari et moi. L'aromathérapie exactement, ça c'est un médecin et un chimiste qui ont écrit un livre sur l'aromathérapie qui est la Bible pour toutes les huiles essentielles. On vous explique en long, en large et en travers toutes les caractéristiques physico-chimiques des huiles essentielles et aussi comment les utiliser, etc. En médecine humaine, par contre. Donc ici, j'ai mon cours, comme je disais, de préparation à l'examen de Heilpraktiker, de thérapeute par les médecines naturelles en Allemagne, qui est reconnu par l'ordre en Allemagne, hein, par l'ordre des médecins. Donc, je pourrais m'installer en Allemagne pour soigner des gens sans problème. Et ensuite, encore celui-ci, l'aromathérapie, la phytothérapie pour les ruminants et les chevaux, donc toujours Philippe Lard, entre les mêmes que celui que vous aviez à quelque part, là. Qui est très bien fait parce que dedans vous allez avoir une partie phyto dans laquelle il vous explique même comment utiliser les plantes qui poussent autour de chez vous pour vous en servir dans vos élevages ou dans vos exploitations.
Ça c'est lequel? C'est l'aromathérapie?
C'est le dernier. Alors donc, comme je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, il n'existe pas une thérapie qui va permettre de tout guérir, mais il existe un patient. Alors ce patient, ça peut être un individu seul, une vache par exemple, ou un cochon, ou un humain, un cheval, mais ça peut aussi être un ensemble d'animaux. Ça peut être les 100 000 poules de mon élevage industriel, les 100 000 poules pondeuses, ça peut être les grandes pluies de votre porcherie de naisseur. Ça peut être votre lot de volaille qui ne grossit pas. Dans ce cas-là, c'est lui le patient. D'accord ? C'est un lot. Parce que sur des animaux comme ça qui grandissent en lot, on a souvent des pathologies qui vont concerner un lot dans son ensemble. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, comment je vais faire pour distribuer les granules à mes 100 poulets ou à mes 50 truies ? Ben, c'est sûr que vous n'allez pas courir après chaque poule pour lui mettre un granule dans le bec. Donc, on va voir tout à l'heure comment on va s'y prendre. Donc, ce patient mérite toute notre attention et donc on va essayer de lui mettre à sa disposition plein de choses qu'on connaît. Si on ne connaît qu'une chose, on ne met pas qu'une chose. Si on en connaît plusieurs, on aura la possibilité soit de les associer, soit d'en choisir une dans le tas qui va convenir. Alors là encore, je vais enfoncer une porte ouverte parce que certains vont dire « Oui, mais moi on m'a dit que quand on faisait de l'homéo, il ne fallait pas faire de l'aroma en même temps. » Ou quand on fait de l'aroma, il ne fallait pas faire de l'homéo en même temps. Ou la phyto, gna gna gna. Moi, je vous dis, tout ça, c'est de la couillonnade, c'est de la connerie. C'est pas vrai. Tout ça, ça s'associe très bien entre soi, à condition de respecter certaines règles, certaines façons d'administrer, et de ne pas multiplier ad libitum les remèdes. C'est-à-dire, si vous mettez 10 huiles essentielles et 50 remèdes d'homéopathie, d'accord, ça ne marchera pas. Mais si vous mettez deux ou trois remèdes homéopathiques bien choisis et une ou deux huiles essentielles, ça peut très bien marcher et au contraire, elles vont s'aider les uns les autres. On ne travaille pas du tout sur le même niveau en travaillant en aroma ou en travaillant en homéo et donc ça s'associe très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que soigner, c'est d'abord ne pas nuire. Et certaines fois, quand on soigne, on nuit plus qu'on ne soigne. Tout ce qui concerne les plantes, vous savez comme moi que l'homme a toujours puisé la nature des éléments pour se soigner et soigner les animaux. On retrouve des traces de soins par les plantes jusqu'à l'époque du Néandertal. On a eu des savants, des chercheurs qui se sont penchés sur le problème, de plus en plus d'ailleurs, et maintenant il y a même une grande étude des principes actifs des plantes qui se fait au niveau physico-chimique et on commence à comprendre comment les différents principes actifs des plantes agissent sur les fonctions vitales des individus, que ce soit les animaux, mammifères, les aves, les oiseaux, etc., mais aussi sur les autres plantes. Il y a d'ailleurs un très beau livre qui a été écrit par Jean-Marie Peck, qui s'appelle « Le langage secret de la nature » et qui explique comment les plantes correspondent entre elles, discutent entre elles, et qui explique aussi comment certaines plantes peuvent avertir les copines qu'il y a un danger. Par exemple, dans le cas du café, le fait de boire du café bio, vous avez automatiquement moins de caféine dans le café que si vous buvez du café pas bio.
C'est ça.
Parce que les traitements chimiques qu'on utilise sur les cafés et pas bio agressent le café. Et la caféine est une molécule de défense du café par rapport aux agressions. Donc plus vous agressez votre arbre, plus il va y avoir de la caféine. Et en plus, si on regarde les caféines, ces caféines de l'arbre bio et de l'arbre pas bio physico-chimiquement, on verra des différences dans les molécules. Donc vous voyez, toutes ces études-là sont en train de se faire. Donc, c'est quand même intéressant de voir que même au niveau de recherche, il y a des recherches là-dessus. Donc ce livre, Le langage secret de la nature, est très bien fait et il explique vraiment des choses comme ça. Jean-Marie Pelt, vous en avez sûrement déjà entendu parler.
Oui, oui.
Alors, parmi les différentes thérapies dites alternatives ou complémentaires, on appelle ça les MAC, les médecines alternatives et complémentaires, parce qu'en fait, on disait alternatives, mais les vétérinaires se sont sentis agressés parce qu'on a dit une alternative à ce qu'ils savaient faire, donc on a dit complémentaire, c'est une alternative, donc on dit les MAC. Donc, il va falloir trouver celles parmi toutes ces thérapies qui seront les plus faciles, vous voyez, à administrer par exemple à des lots entiers, en les incorporant dans la nourriture ou dans la boisson, ou en les diffusant dans l'atmosphère. Comme je vous dis, vous n'allez pas courir après 100 poules ou 200 poules, voire 1000 poules, pour leur mettre à chacune un granule dans le bec, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi moi, l'ostéopathie par exemple est très bien, mais ne s'adapte absolument pas à des grands effectifs. Ça s'adapte à un animal ou à deux animaux, mais pas à un effectif. Par exemple, si je vais dans une exploitation où il y a 150 vaches, si j'ai deux vaches qui ne reviennent pas en chaleur, bon, si j'ai le temps, je peux faire un fouiller, je peux regarder pourquoi ces deux vaches-là ne reviennent pas en chaleur, et éventuellement faire une manipulation ostéopathique ou leur donner de l'homéo ou quelque chose pour les faire revenir en chaleur. Mais si dans ce troupeau de 150 vaches, 100 ou 150 vaches, on me dit « Ah ben oui, mais moi j'ai 40% de non-retour en chaleur. » Je dis au gars « Écoute, t'es bien gentil, mais moi je ne vais pas faire de l'ostéo sur tes 40 vaches. Hein. C'est pas possible. Je vais te passer 3 jours ou 4 jours. Alors moi je veux bien, hein, s'il me paye. Encore une fois, vous allez me dire « Je suis vraiment vénal. » Mais bon, le problème c'est qu'à côté, il y en a plein qui attendent après moi. Donc indépendamment de ça, voilà. Et puis ça n'a aucun intérêt. Donc là, je vais être obligée de réfléchir, de me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que toutes ces vaches ne reviennent pas en chaleur? Il doit y avoir un problème. Alors, le premier problème qu'on va trouver, ce sera un problème métabolique. Donc, il va se régler avec l'alimentation et ou avec quelques remèdes, des compléments alimentaires, etc. Ou alors, c'est un problème géobiologique, ou c'est un problème de gestion de son troupeau. Il ne prépare pas bien ses mises bas, etc. Vous voyez, donc, il y a d'autres choses qu'il va falloir réfléchir. Donc dans la pratique quotidienne, il existe donc la phytothérapie qu'on peut donner à des lots. C'est la plus ancienne parmi les méthodes dont on va parler aujourd'hui, à savoir phyto, homéo et aromathérapie. Elle remonte à des milliers d'années et on l'utilise instinctivement. Quand vous mangez de la soupe le soir, vous faites de la phytothérapie. Quand vous buvez du café ou une tisane ou du thé, vous faites de la phytothérapie.
Tout ce qui est plante.
Plante
dans l'eau, c'est ça.
Mais non.
Plante.
Vous mangez de la salade, c'est de la phytothérapie. Ouais. Si vous mangez de la laitue ou vous mangez de la roquette, vous ne mangez pas du tout les mêmes principes actifs. Automatiquement, vous faites
si
de la phytothérapie.
Si on voit du gant, c'est aussi de
tout à fait.
Que l'aliment soit sa première médecine.
Voilà.
Voilà. Les Chinois disaient, on meurt par ce qui rentre par la bouche et par ce qui sort de la bouche. Ce qui rentre, c'est ce qu'on mange, et ce qui sort, c'est ce qu'on dit. Donc si on est une langue de vipère, on aura une moins bonne santé que si on est sympa.
On va pourtant une
langue de vipère et de sanglier, un peu la vache.
Ouais.
Oui, mais elles ont peut-être plus beaucoup de
sang. Il y a bien une langue de vipère.
Vous voyez, de la phyto, moi j'avais une tante qui est morte très âgée quand j'étais petite fille.
C'est sympa.
Elle était vraiment sympa. Et quand elle nous emmenait nous promener, eh bien, elle nous disait, ah ben tiens, ça tu peux manger. Alors, c'était de l'ail des ours, ou bien c'était du pissenlit, ou des petites feuilles de plantain, ou alors elle nous cueillait les baies d'aubépine, les baies de. Voilà, elle nous cueillait des baies d'aubépine, etc. Des pétales de rose. Elle nous faisait goûter des choses dans la nature, quoi. Donc, ça, c'est déjà de la phytothérapie. Donc, vos animaux aussi, ils sont dehors sur un endroit en extensif, comme vos bovins, par exemple. Ils vont aller d'eux-mêmes chercher déjà des plantes dans la nature pour se soigner. Ça ne suffira pas à chaque fois, mais ça peut déjà les aider. Donc déjà, manger des fruits, des légumes et boire des tisanes, c'est faire de la phyto. Alors, il existe des plantes qui vont être stimulantes et toniques. Des plantes hépatiques, des plantes digestives, des plantes antibiotiques, des plantes anti-inflammatoires, des plantes circulatoires, respiratoires. Reminéralisantes, métaboliques et des plantes qui vont stimuler le système immunitaire. Bien sûr, on ne va pas parler de toutes ces plantes aujourd'hui, on n'aura largement pas le temps. Mais comme ça, ces plantes vont être présentées soit sous forme de poudre, elles seront sèches ou broyées, plus ou moins finement, ça s'incorpore facilement dans un aliment. C'est intéressant pour les traitements préventifs, justement, au long cours. Pour un veau, on donne de 5 à 10 grammes par jour pour un veau, jusqu'à 50 grammes pour une vache. Et pour les volailles, vous allez me dire, on fait comment? Ben, on fait comme d'habitude, on prend par kilo de pois vif. Un veau, ça fait 50 kilos. Donc une volaille, après, vous voyez par rapport au nombre de volailles que vous avez, le nombre de kilos que ça fait, et vous servez à peu près la même échelle par rapport au kilo. Une vache, ça fait 500, 600 kilos. Ça dépend de la taille de la vache. Vous allez me dire, entre un charolais et une vosgienne, ou une bretonne, il y a un peu de différence, mais globalement, voilà, on adapte ça comme ça. Après, on a les tisanes, donc on peut utiliser des plantes fraîches, sèches ou broyées, qui sont traitées par l'eau bouillante, soit sous forme donc, d'infusion. Dans ce cas, non, la plante est mise à infuser dans de l'eau bouillante versée bon sur les plantes.
Donc, frémissante. Il ne faut pas qu'elle soit bouillante, il faut qu'elle soit frémissante.
Voilà. Ouais. Donc on prend l'eau et on la verse sur les plantes, ou bien on prend son tampax et on le met dans la tasse. Hein, et on laisse agir, alors ça dépend de 10 à 20 minutes, 5, 10, 20 minutes, ça dépend des plantes. On filtre et on peut administrer ça tiède ou froid. En général, on utilise 50 grammes de plantes sèches pour 1 à 2 litres d'eau. Alors encore une fois, j'ai été prévenue un peu tard, hein, j'ai pas eu le temps de vous faire un truc tout à fait visé à bière, hein, mais bon, vous êtes des grands enfants, donc vous allez comprendre ça sans problème. Et donc, vous voyez, après, on peut administrer cette infusion à nos animaux. Donc moi, un truc que j'utilise beaucoup pour réhydrater les veaux, et donc ça marche aussi pour les poulets, ça marche aussi pour les lapins, ça marche pour les moutons, ça marche pour n'importe quel animal qui a besoin d'être réhydraté, je fais des infusions de foin. J'appelle ça du thé de foin.
Vache.
Je prends du très très bon foin et je leur fais faire une infusion avec le foin, selon les principes qui sont expliqués là. Et à ce moment-là, je rajoute dans mon infusion, pour un litre, je rajoute à peu près 100 grammes de sucre et à peu près 10-15 grammes de sel. Donc ça déjà, ça permet de réhydrater les animaux et en leur donnant de l'énergie. Oui.
Qu'est-ce qu'on met sous bon foin? Alors, c'est un foin diversifié, c'est un foin riche.
Si vous avez un foin diversifié, un bon foin de prairie naturel, c'est l'idéal. C'est ça. Bon, ça n'est pas toujours le cas chez tout le monde, mais au moins qu'il ne soit pas ni moisi, ni qu'il ne date pas de 20 ans, qu'il sente bon quand
mais on... Mais qu'il y ait un maximum d'espèces dans la...
Voilà, si c'est possible, c'est mieux. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être un foin de luzerne pure, hein, parce que ça ne marchera pas, ça leur donnera plutôt la diarrhée. Donc, vous voyez, il vaut mieux qu'il y ait un peu de tout dedans, quoi. C'est la base, ça donne un goût d'herbe. Et même les veaux, par exemple, qui sont un petit peu limites, etc., je dis aux gens, faites-leur des infusions comme ça, et vous mettez ça comme boisson dans leur seau. Comme ça, ils boivent ça et ça leur fait du bien.
C'est pas correct pour les
services. 10 à 15
ans, c'est ce qu'ils donnent dans les hôpitaux.
Oui, dans les hôpitaux. Alors, comme vous voyez, on utilise pour les infusions les parties plus tendres des plantes, les feuilles, les fleurs. Et pour les décoctions, là, cette fois-ci, on va utiliser les parties plus dures, les écorces, les racines. Alors là, cette fois-ci, on met la plante dans l'eau froide ou chaude, ça dépend un peu, voilà, et on la porte à ébullition. On laisse frémir 15 minutes avant de filtrer, et on administre aussi tiède ou froid. Ça s'utilise beaucoup pour les écorces. Donc vous avez par exemple l'aubier de tilleul, qui s'utilise comme ça. L'aubier, c'est la partie entre l'écorce et la moelle, enfin la, voilà, le corps du tronc de l'arbre. Il y a une espèce de partie intermédiaire qui est un peu spongieuse à l'état frais et qui devient dure à l'état sec. Et donc ça se vend sous forme de bâtonnet comme ça. Et c'est une plante très dépurative qui nettoie l'organisme en profondeur. Donc ça s'utilise, bon, chez les animaux c'est rare, mais chez nous, quand on a fait un peu trop la fête ou quand on a des calculs d'acide urique, etc., par exemple, des gens qui font de la goutte, et on fait des décoctions comme ça, c'est infect. Hein.
Avec quelle plante ?
L'aubier de
tilleul. Tilleul.
Oui, ça marche bien.
L'aubier, ça s'écrit AU. Aubier, c'est AU. Hein.
AUBIER. AUBIER.
Ouais.
C'est entre l'écorce.
Entre l'écorce, l'écorce dure et le tronc, quoi. Enfin, la partie vivante.
Ouais, l'aubier du tilleul.
C'est en
vermiculture,
vous avez vu.
Ah, elle a fixé un bon nettoyant.
Je vous ai dit, si j'avais
sans
arrêt.
Après, t'as rien écouté, tout.
Je ne vais pas en sortir. Ensuite, vous pouvez avoir des extraits fluides. Donc, ils sont obtenus par évaporation de sucre ou de solution de plante. Et ça a été au départ traité par un peu en l'eau, la colle des terres. Et ensuite, vous avez encore les peintures mères. Ils sont vendus en pharmacie et qui sont des macérats de plantes. On met 10% de plantes dans l'alcool. Et donc, c'est cette teinture mère qui servira aussi de départ à la fabrication des remèdes homéopathiques. Alors ça, vous pouvez les faire chez vous, les teintures mères, avec les plantes que vous avez. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de la consoude, tu parlais des orties, tu parlais du plantain, je peux vous parler aussi du calendula, le souci des jardins. Mmh. Vous pouvez fabriquer vos teintures mères vous-même. Alors vous allez me dire, il faut quoi comme alcool? Alors moi je vais vous dire ce que vous voulez. Moi je dis toujours aux gens, prenez de l'agneau, parce que moi comme ça c'est comestible. Hein, si vraiment vous n'en avez pas, vous prenez de l'alcool de pharmacie, pas du 90 degrés, donc 70. Mais ça arrache
dans
ce cas-là. Mais l'idéal, c'est d'avoir de l'alcool crémé. Vous avez tout ça, hein, de l'alcool pour faire les trucs de fruits. Là.
De fruits,
hein. Voilà, ça marche très bien. Ah
ouais. Justement, le taux d'alcool ne détermine pas le taux d'extrait.
Pardon ?
Le taux d'alcool qu'on utilise ne détermine pas l'extrait qu'on fait.
Si, mais c'est très peu, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le final. Donc les teintures mères, vous pouvez en acheter en pharmacie, pas toutes. Vous êtes sur de la phyto, hein, et donc là on est aussi sur un problème législatif. Pour l'instant, on est un peu embêté avec l'ANSES qui nous met des délais d'attente sur la phyto. Donc on a très peu de plantes qui sont autorisées et on a des délais d'attente viande qui sont 28 jours en conventionnel et de 56 jours en bio, parce qu'on doit multiplier les délais d'attente par deux, et qui sont de 7 jours sur le lait en bio, en conventionnel, et de 14 jours sur le lait. Et encore, certaines sont complètement interdites. Donc là, on vient de recevoir 109 pages, là, que j'ai pas encore eu le temps, le courage de lire, parce que c'est un merdier épouvantable à lire, donc voilà. C'est pour ça que je vous disais, l'homéo, l'avantage de l'homéo, c'est que l'homéo, c'est zéro jour d'attente, quoi. Et donc, ça permet. C'est un peu plus compliqué à apprendre, mais c'est tellement plus simple là-haut de se dire, bon, ben, j'ai fait de l'homéo, c'est bon, j'en sais rien. Sauf une ou deux exceptions, mais bon, c'est tellement rare que voilà.
Mais alors qu'il est, j'achète des extraits de plantes sur lesquels il est écrit. C'est pas écrit que c'est de la phytothérapie, c'est écrit complément alimentaire.
Alors c'est différent.
J'ai zéro jour d'attente, mais c'est de la phytothérapie.
Voilà.
Quand même,
on est sur, voilà. On est sur des compléments alimentaires. On n'est pas sur du médicament.
C'est l'étiquette qui change.
C'est l'étiquette qui change. Alors si dans votre, justement, dans votre complexe que vous achetez, le mec qui l'a fait, le complexe, est assez sympa et vous a mis ce qu'il y a dedans comme plante, c'est bien. Si par contre vous achetez un complexe sur lequel il est marqué mélange de plantes aromatiques, c'est un cube, hein, c'est un bouillon cube. Hein. Donc c'est de la phyto, mais on ne sait pas combien il y en a, on ne sait rien. Quoi. Donc l'avantage des complexes, c'est que c'est effectivement tout prêt et que ce sont des compléments alimentaires qui ont été. Et même là, il y a eu, je ne sais pas, 1500 principes actifs qui ont été mis entre guillemets à l'index. J'ai la liste à la maison, c'est énorme. Hein. Et donc, il a fallu changer certaines plantes parce qu'elles n'étaient plus autorisées sous telle forme, etc. C'est une législation très complexe. C'est le cas de dire.
C'est le but aussi.
C'est le but aussi. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, effectivement, si vous avez une gamme de produits, par exemple le comptoir des plantes, ou bien toi, je sais que c'est chez Dénavic que tu fournis pour certaines, qui sont calés et qui marchent. Bah oui, c'est beaucoup plus simple et ce sont des compléments alimentaires, on n'est pas sur du médicament. Et là, effectivement, il n'y aura pas de délai d'attente. Par contre, l'utilisation n'est pas tout à fait la même. Le complément alimentaire va travailler plus, effectivement, tout à l'heure, on posait la question en préventif. Et le médicament, ce sera pour un cas particulier où on aura besoin, vite, vite, de guérir quelque chose. Alors, il existe donc, je vous avais dit, donc des plantes à tropisme hépatique qui contiennent donc des alcaloïdes. Il existe aussi des plantes qui contiennent des tanins. Il existe des plantes qui contiennent des sucres. Donc, c'est ce qui donne les savons végétaux, ça lave les cellules. On a même des plantes qui sont hormone-like, qui sont des phytoestrogènes, des phytoandrogènes, etc. Donc, je ne vous donne pas tout ça dans les détails. Des plantes qui contiennent des vitamines, des BCA, des oligoéléments, des minéraux. Alors les flavonoïdes, ça c'est important que vous les reteniez parce que ce sont les pigments des plantes qui ont des caractéristiques anti-infectieuses, comme antibiotiques, protéger contre les rayonnements et augmenter le flux biliaire. Les acides, par exemple l'acide fumarique qui est contenu dans le culter, va servir de moulinette métabolique, c'est-à-dire il va relancer le métabolisme. Alors, quand vous avez un petit lot d'animaux à soigner et que vous avez vraiment besoin d'une plante, parfois vous pouvez aller piocher dans la pharmacopée humaine. Hein. Le fumeter, vous allez le trouver dans des laboratoires qui vendent des plantes pour les humains.
Il y en a partout dans la nature aussi.
Oui, il y en a dans la nature. Encore une fois, si vous les connaissez, c'est l'idéal. Hein, vous êtes sur des plantes tout à fait naturelles que vous récupérez vous-même. Il y a des plantes qui vont être mucolytiques, donc qui vont permettre d'expectorer plus facilement le mucus. Mucolytique, ça veut dire qu'ils détruisent les graisses. Les coumarines sont anticoagulantes. Elles contiennent aussi parfois des acides aminés. Les polyphénols contenus dans les plantes vont être anti-infectieux et stimuler les hépatocytes. Et certaines plantes contiennent aussi des huiles essentielles. Donc là, on va tomber dans l'aromathérapie. Mais une plante peut contenir des huiles essentielles et quand même consommer dans son intégralité. Par exemple, le thym, le romarin, la sauge, ce sont des plantes qui contiennent des huiles essentielles qu'on va pouvoir extraire avec la technique de la distillation, mais qu'on peut aussi utiliser de façon complète. Hein. Donc, par exemple, une plante à tropisme hépatique, c'est le fameux chardon-marie. Alors, le chardon-marie, c'est vraiment le chardon-marie. C'est pas la peine de prendre un chardon qui pousse dans la nature, n'importe lequel, il faut vraiment le chardon-marie. Ou alors, si vous voulez vous en approcher le plus près possible, vous prenez l'artichaut, hein, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Le principe actif majeur du chardon-marie, c'est la silymarine. C'est la reine des plantes pour le foie. L'action va être douce, mais profonde. Parce que le problème des plantes n'est pas stimulante, c'est que vous en avez de deux catégories. Vous en avez de trois catégories. Vous en avez des cholérétiques qui vont stimuler la formation de bile. Alors, vous n'avez pas assez de bile, vous prenez une plante cholérétique, vous allez avoir de la bile qui va être produite.
À quoi ça sert la bile ?
La bile, ça sert à digérer les graisses. Ça s'accumule dans la vésicule biliaire avant de passer dans l'intestin grêle. Et de permettre la digestion des graisses en les émulsifiant. Le problème, c'est que si vous avez en même temps des calculs biliaires qui bouchent le conduit qui amène la bile dans l'intestin et que vous stimulez la production de bile, vous allez avoir une énorme vésicule biliaire et vous allez avoir très bobo au ventre. Hein? Et vous allez risquer de vous retrouver à l'hosto. Si la vésicule biliaire n'éclate pas, vous aurez du bol. Après, il y a des plantes qui sont cholagogues. Cholagogues, ça veut dire qu'elles ouvrent le canal cholédoque, elles tirent la chasse, le gog, pour libérer la bile. Donc là encore, ça va si vous n'avez pas un calcul. Si vous avez un calcul et que vous tirez la chasse, le calcul, qu'est-ce qu'il fait? Il part, et il part direct dans le pancréas. Et ping, pancréatite. Ça, c'est pas de bol. Pourtant, j'ai pris que des plantes. Hein. Et ensuite, vous avez des plantes qui sont amphocholérétiques. Elles vont stimuler tout doucement la bile, la formation de bile, et en même temps, ouvrir délicatement le canal cholédoque, et donc permettre l'élimination de la boue et des calculs délicatement, sans que ça aille directement percuter de plein fouet le pancréas. Et parmi ces plantes-là, vous en avez une qui s'appelle le chardon-marc. Alors, par exemple, une autre plante pour le foie, c'est le pissenlit. Il est plus cholérétique que cholagogue. Et en plus, il a une autre caractéristique, il fait faire pipi. Il est pissenlit.
Pissenlit.
Pipi au lit. Vous voyez, c'est ce que je te disais, j'essaie toujours de mettre de l'ambiance.
C'était quoi le pissenlit, la première chose qu'elle a dit?
Il est diurétique.
Diurétique.
Hein? Très diurétique, le pissenlit. Ah oui. Et très bon pour le foie. Alors, ce n'est pas la fleur de pissenlit, hein, c'est les feuilles.
Et le pancréas, il s'arrête pas à lui.
Alors, le pancréas, il a plusieurs fonctions. Il a une fonction qu'on appelle une fonction endocrine, qui sécrète l'insuline et le glucagon. L'insuline qui va, je vous donne un résumé, hein, permettre de mettre le sucre que vous avez ingéré et qui est dans votre sang, dans les cellules, et donc de faire baisser la glycémie. Ce qu'on appelle la glycémie, c'est le sucre dans le sang. Et à l'inverse, vous avez le glucagon qui, lui, va aller chercher le sucre que vous avez stocké dans les cellules, par exemple du foie ou des muscles, pour les remettre dans le sang, pour remonter la glycémie, parce que ben, on approche de midi et vous commencez à avoir faim. Et vous n'avez pas eu des bons petits pains au raisin, au chocolat, etc. matin. Bonsoir. Et vous êtes chez vous en train de balayer le couloir de l'exploitation et vous avez faim. Le glucagon va aller chercher le sucre pour remonter le sucre dans le sang. Et ensuite, le pancréas a une autre fonction qui est une fonction digestive. Il sécrète, et cette fois-ci c'est sa fonction exocrine, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur, sécrète un sucre qui s'appelle la trypsine, une enzyme. Et cette trypsine va, avec l'aide de la bile, digérer, il y a la lipase, pardon, qui va, avec l'aide de la bile, digérer les graisses, et la trypsine qui va digérer les protéines. D'accord? Donc c'est cette trypsine qui est dangereuse quand on a une pancréatite. Parce qu'en fait, cette trypsine, c'est une espèce d'acide qui va aller détruire les protéines. Or, notre organisme, c'est 90% de protéines. Et donc, la trypsine va se retourner contre le pancréas et le faire bouffer, quoi. Et aussi tout l'intérieur de l'abdomen.
Et on se retrouve avec des protéines dans la... On pisse de la protéine, quoi.
Ben, c'est pas qu'on les pisse, c'est qu'il n'y en a plus. C'est cramé, quoi.
C'est cramé.
Ouais. Donc la pancréatite, c'est en ça qu'elle est terrible, parce qu'elle bouffe l'intérieur, ça bouffe littéralement l'intérieur de l'organisme, et le pancréas en particulier. Donc quand le pancréas est détruit, il n'y a plus d'insuline, plus de glucagon, et là vous êtes vraiment...
C'est pour ça qu'il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait.
Ah bah oui, voilà, c'est exactement le cas. Il faut absolument savoir, il faut connaître, c'est pour ça que... Les articles dans TV Magazine ou Marie France Passion ou je sais pas comment elle s'appelle ou machin truc bazar vous dit oui, si vous ne dormez pas le soir, il faut prendre de la mélisse. La mélisse, c'est une plante calmante. Antispasmolique, calmante. On est d'accord. Chez tout ça, comme ça. Mmh. Moi, si je prends de la mélisse, on ne me tient plus. Je deviens...
Peut-être que j'en donne à ma femme.
Non, mais c'est... Je pète un câble. Parce qu'elle a une action sur le système neuro-végétatif, donc sur celui qui règle les fonctions et les organes. Et moi, au lieu de me déspasmer, ça me spasme. Donc je deviens enragée, quoi. Je ne peux pas la supporter.
Mais... juste à côté mort, du coup.
Non, mais j'en ai pas pris. À côté de ça, vous avez la fameuse réglisse. Alors, j'en ai pris un petit peu dans ma tisane, là, ce matin. Eh bien, la réglisse est hypertensive. Donc, si vous prenez de la réglisse, que vous avez de l'hypotension, ah bah, c'est très bien, bon. Ça va vous faire remonter la tension. Mais si vous êtes hypertendu sans le savoir, parce que bah, vous avez eu des contrariétés depuis 15 jours, 3 semaines, et manque de peau, bah, ping, ça s'est déréglé, vous êtes hypertendu, vous prenez votre église, une c'est fois ça bon, va, hein. deux fois ça va, trois fois bonjour les dégâts. Vous voyez, il faut connaître les plantes pour pouvoir les utiliser à bon escient.
La réglisse, ça peut aussi en bois. En tapissant le.
Alors, la réglisse a aussi une efficacité, effectivement, sur les ulcères de l'estomac par le fait qu'elle est anti-infectieuse sur la bactérie qui intervient dans les ulcères de l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori. Vous voyez, donc, les plantes ont plein d'activités différentes. Donc, on revient à notre charbon-mari. Vous voyez ça, je vous l'ai expliqué. Donc, ça protège les cellules hépatiques contre les toxines. On a une activité antioxydante et ça désengorge la veine porte et par voie de conséquence le petit bassin. Donc par exemple, vous avez une crise d'hémorroïdes, vous marchez comme ça. Vous ne pouvez plus marcher hein, parce que là, c'est chou-fleur. Là. Donc,
c'est pas le coup ici.
Comme ça, vous retenez. Là.
Phytothérapie.
Et donc, vous allez dire, bah oui, bah je vais aller voir le proctologue, hein, et puis il va me réduire ça, il va m'enlever tout ça. Oui, bah d'accord. Sauf que si vous avez des hémorroïdes, c'est qu'il y a une raison.
Voilà.
Et une des raisons possibles, c'est d'avoir un problème hépatique. Si votre problème hépatique, si votre foie il est engorgé, eh bien la veine porte qui ramène le sang depuis tout le bassin et tout le tube digestif vers le foie pour le faire désintoxiquer, ne peut plus ramener le sang parce que bah, ça bouchonne. C'est comme s'il y avait un bouchon sur le périphérique de Paris. Vous ne pouvez plus rentrer. Et à ce moment-là, bah, il faut bien que la pression elle s'évacue par quelque part et elle va s'évacuer par derrière sous forme d'hémorroïdes. Vous voyez ? Donc, on peut réguler des hémorroïdes avec du chardon-marie.
L'hémorroïde, c'est quoi ?
C'est une varice de la veine rectale.
Ah, c'est ça.
Pas prévu qu'on parlait d'hémorroïdes. Alors, vous voyez, l'artichaut que vous pouvez utiliser à la place du chardon-marie et que vous avez tous autour de chez vous, hein, et en plus, il va diminuer le cholestérol, diminuer les graisses dans le sang, et en plus, il a un tropisme rénal, lui aussi, il va être fortement diurétique. Hein, c'est d'ailleurs une plante utilisée dans les régimes amaigrissants. Ouais. L'artichaut pour faire pipi, parce que quand on perd de l'eau, bah, la balance elle affiche 1 ou 2 kilos de moins, on est content, mais en fait on a perdu que de l'eau. Hein, donc,
l'artichaut c'est quand on mange l'huile ou c'est quand on fait infuser?
On peut manger de l'artichaut et on va faire pipi derrière, mais on peut aussi broyer, sécher l'artichaut, le broyer, le donner sous forme de poudre. On peut le faire macérer,
c'est quoi,
on
c'est
peut
les feuilles,
faire
voilà, c'est
les feuilles. Donc là,
le fruit.
Le fruit, voilà, le fruit.
Ah, la feuille, d'accord.
Voilà. Oui, le fruit, pardon.
D'accord.
Après, tu peux aussi avec les feuilles, mais voilà, les actions ne sont pas toujours exactement pareilles. Le taraxacum, c'est le pissenlit dont je vous en ai parlé. Donc, ça va aussi travailler sur les crampes de la bébé, la vésicule biliaire, diminuer aussi les stases aqueuses et stimuler l'appétit. Et puis, vous avez le romarin, qui est aussi une plante pour le foie. Elle est un spasmolytique digestif, donc elle va réduire les spasmes du tube digestif. Tonique générale, elle stimule l'appétit. Elle est cholagogue, donc elle libère la bile du foie. Elle est cholérétique, elle en fait fabriquer. Mais c'est aussi un cicatrisant cutané et l'huile de romarin contient des huiles essentielles. On parlera des huiles essentielles tout à l'heure. Hein, une chose après l'autre. Une autre plante qui est bonne pour le foie, que vous connaissez, c'est la jonquière. J'ai mis la suze. Alors, Et donc, vous voyez, la gentiane, ça stimule la rumination. D'ailleurs, il y en a dans certains produits pour faire ruminer les vaches. Des compléments qu'on leur donne si elles ne ruminent pas bien, par exemple. Ça a aussi une action anti-fatigue, anti-anorexie. Ça permet une meilleure convalescence. Ça stimule le système immunitaire. C'est fébrifuge, donc ça fait tomber la fièvre. Et, tout à l'heure, on m'a demandé, ça a aussi une action vermifuge.
C'est pour les poules, c'est pas pour toi.
Alors, le seul souci des plantes vermifuges, que ce soit sous forme de plantes ou que ce soit sous forme d'huile essentielle, c'est que vous allez avoir effectivement une action vermifuge. Donc, ça va faire sortir les vers adultes. Vous aurez très peu d'action sur les parties larvaires, etc., qui se baladent dans l'organisme, par exemple au niveau des muscles. Et par ailleurs, souvent, la dose pour être vermifuge, elle va être bien sûr vermifuge, mais elle va aussi être toxique pour l'animal. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de trouver des vraies plantes vermifuges qui vont pouvoir avoir une action positive sur l'animal sans lui faire du tort. Donc, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile à gérer en phyto et en aromathérapie, c'est la partie antiparasitaire digestive. Après, une fois que le troupeau a trouvé son équilibre, ça peut marcher d'effectivement utiliser ces plantes de façon dans des complexes comme ceux qui viennent du comptoir des plantes, etc. Oui.
La décoction d'ail dans le poisson, je ne sais pas si on...
Oui, ben, ça peut marcher, mais encore une fois, ça ne va pas être, ça va pas être l'action d'un éprinex ou d'une sidectine ou d'un panacure. Ça va pas, voilà, ça n'aura qu'une action locale, pas systémique.
Hein. Là, il y en a qui l'utilisent en préventif.
Oui, voilà, on l'utilisera plus comme ça.
Mais quoi, de l'ail dans
l'ail.
Décoction d'ail.
Ouais. On peut aussi l'utiliser sous forme broyée, puis il y a des gens qui donnent les gousses d'ail à manger aux vaches. Alors le seul souci, c'est le goût
dans le lait.
Si
tu fais du boursin,
quand vite que c'est néfaste pour l'animal.
Certaines plantes germifuges peuvent être si tellement toxiques qu'elles peuvent tuer l'animal.
Ah, donc c'est ça.
L'ail.
Alors vous avez les plantes comme le feuillet grec que vous connaissez certainement tous.
Une fois par mois, en gros.
Alors ici c'est bien intéressant pour les gens qui font de l'élevage chair, puisque ça permet une prise de poids. Ça augmente aussi légèrement la lactation pour ceux qui ont des animaux, des vaches laitières ou des brebis laitières. Ça calme les irritations de l'appareil respiratoire et de la gorge. Et c'est un émollient des abcès en usage externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une espèce de... de pâte et on l'applique sur les abcès et ça fait mûrir l'abcès. Alors, l'achillée millefeuille, vous en trouvez aussi autour de chez vous, qui stimule l'appétit, qui est un antispasmodique viscéral, surtout au niveau utérus, c'est-à-dire au niveau gynéco.
C'est mon bénéfice.
Vous allez chercher comme ça, vous allez vous les mettre dans la tête.
Exactement.
Alors sur internet, vous trouvez toutes les images que vous voulez. Hein. Alors le seul souci, c'est que moi, si vous voulez, souvent je vais piocher sur internet, je mets des images. Normalement, j'ai pas le droit à ça. Et vous pouvez aller regarder. Hein. Moi, il faudrait que j'ai le temps de prendre des photos de toutes les plantes. Et j'ai pas vraiment le temps de faire tout ça.
Sinon, il existe une Bible produite par Gérard Dusserre. Ça s'appelle l'Encyclopédie des plantes bio-indicatrices. Je sais pas si vous connaissez.
Non, bah, tu vas nous noter ça sur le tableau là.
C'est hallucinant.
Ouais, et tu vas nous noter ça là.
Je l'ai commandé moi pour Noël, c'est vraiment une idée. Donc
j'ai commandé. Et tu l'as pas emmené.
On est 20.
Et tu l'as pas emmené aujourd'hui.
200 euros le.
Lui aussi, il est génial.
Bah, t'aurais pu les emmener quand même. Qu'on les voit.
C'est vrai qu'il y a une vidéo comme ça, tu peux pas.
Si vous payez, c'est un signe, moi. Il est clair.
Oui, t'es pas un stade de la FNSEA là pour. C'est plus pour l'agronomie quand même.
Pour toute la paix, oui.
Ouais, t'es pour le bon.
L'un des intérêts, c'est qu'on va chercher en anglais, mais c'est maintenant. Je lui ferai payer la consultation.
On en a plein de boutons.
Oui, je l'ai vu.
Et donc dedans, vous avez
du cerf.
Où est-ce que vous pouvez trouver ce que ça indique pour vos sols? Ce qu'il faut vos sols, c'est
ça, c'est aussi pour les sols,
bien sûr. Toute leur utilisation, que ce soit comestible et plus leur utilisation en phyto, en huile essentielle, c'est un truc qui est vraiment génial.
Ce sera jamais lu, ça.
Vous envoyez la lettre en Anjou.
Hein,
c'est Anjou. À côté, en Haute-Marne.
C'est trop loin, ça.
C'est pas loin, ça. Non, c'est pas loin.
Il faut prendre le temps.
Bon, on peut se caper.
Oui, tout de suite. Ouais.